Chers amis, bon dimanche de la joie. Peut-être que certains se demandent ce que je fais habillé comme ça, en rose. Pardon. Ce que je fais habillé en rose, il n'y a pas que moi qui suis habillé comme ça, parce que vous voyez que la troisième bougie aussi est rose. Moi, j'y suis attaché à cette couleur parce que j'étais ordonné il y a un an en rose aussi. Mais vous voyez, le troisième dimanche de l'Avent, alors que d'habitude nous sommes en violet, et le père Éric nous le rappelle, le troisième dimanche de l'Avent, la joie du Sauveur qui vient se fait plus pressante, plus grande, plus présente. Alors je ne suis pas un expert en couleurs, mais si on mélange du blanc, le blanc de Noël, avec le violet de l'attente de l'Avent, ça donne du rose. Et vous voyez, les amis, il y a plein de raisons pour lesquelles aujourd'hui nous pouvons être habités par cette joie. Nous avons vécu le week-end dernier 4 jours incroyables ici à Saint-Nizier avec la fête des Lumières, la fête de Marie. Nous avons vu des cœurs s'ouvrir, nous avons vu des larmes couler, des visages apaisés. J'ai surtout vu des paroissiens heureux de servir ensemble, se bouger par centaines pour venir accueillir ceux qui venaient de loin, leur donner une tisane, un sourire, une parole de Dieu. Qu'est-ce que c'était beau! On peut se réjouir pour ça, on peut se réjouir pour ces 3 baptêmes d'aujourd'hui, se réjouir avec les familles, les parrains, marraines. Se réjouir pour la béatification hier de 50 Français à Notre-Dame de Paris, dont un Lyonnais, scout, et un Toulonnais, je précise aussi. Oui, il y a plein de motifs, les amis, pour se réjouir. Noël qui approche, les vacances, plus qu'une semaine, les enfants. Et pourtant, c'est étonnant de voir ce que la parole de Dieu nous propose comme texte aujourd'hui. Alors, on comprend bien dans la première lecture, « Réjouissez-vous, soyez toujours dans la joie », ça c'était l'antienne au tout départ, mais ensuite, « Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent, le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. » Donc on voit cette exultation. Et pourtant, l'Évangile nous montre un personnage, Jean-Baptiste. Pas se dire que c'est le plus beau modèle de joie, on voit un homme qui est en prison. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Baptiste, c'est déjà le personnage que l'Évangile nous présentait la semaine dernière, celui qui annonçait la venue de Jésus. Et c'était magnifique la semaine dernière parce qu'il annonçait un baptême de conversion. Il y avait toute une région qui se déplaçait, qui allait vers lui pour recevoir ce baptême. Vous voyez, c'était la réussite totale. Et Jean s'était abaissé pour dire « Voici qu'arrive derrière moi celui qui est plus grand que moi, qui vous baptisera dans le feu et l'esprit. » On était resté sur un Jean-Baptiste, vous voyez, qui, avec un réel succès, lui qui était là pour ouvrir la voie, et là, une semaine après, Jean est en prison. Et vous voyez, Jésus qui était là, Jean-Baptiste qui était là pour montrer la voie, pour ouvrir la voie, va jusqu'au bout comme son maître Jésus, qui lui aussi sera condamné alors que innocent. Et je ne sais pas si vous imaginez ce qui se passe dans la tête de Jean-Baptiste. Il est là en prison, il a beaucoup de temps devant lui. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le jubilé des personnes qui sont en prison. Il y a plein d'évêques dans le monde qui vont aller passer la journée en prison pour aller faire vivre à ceux qui ne peuvent pas sortir la grâce du jubilé. Et peut-être que là, ce qu'ils peuvent le plus nous apprendre, ces personnes en prison, c'est la patience. Imaginez Jean dans sa prison, et alors qu'il attend, le doute arrive dans son cœur. Ça doit être horrible, hein ? Lui qui a tout donné pour préparer le chemin du Messie, il est en train de se dire, en fait, est-ce que c'était bien lui ? C'est ce qu'on a entendu dans l'Évangile, hein ? Il envoie des disciples Jésus, es-tu celui que l'on attend, ou alors est-ce qu'il faut en attendre un autre ? Est-ce que c'est toi ? Et c'est très beau parce que Jésus ne dit pas « Bon, bah, Jean-Baptiste, je savais que j'aurais dû choisir un autre prophète parce que franchement, il doute, quoi. J'aurais dû choisir quelqu'un qui n'allait jamais douter, j'aurais dû choisir quelqu'un qui était persuadé que j'étais le Messie, qui même en prison ne serait pas envahi de doute. Mais qui parmi nous, les amis, qui dans cette assemblée n'est pas parfois envahi par le doute ? Doute sur sa foi, doute sur son couple, doute sur son travail, sur le sens qu'il donne à sa vie. Qui n'est pas parfois envahi par le doute ? Et que va faire Jésus ? Il ne va pas lui dire « C'est pas grave, Jean-Baptiste, n'aie pas de doute, tout va bien se passer. C'est une pensée passagère, fait comme si de rien n'était. » Jésus ne lui dit pas ça. Et Jésus ne lui dit pas non plus « Mais qu'est-ce que tu fais, quoi ? J'avais confiance en toi et là, tu es en train de flancher. » Jésus va simplement dire « Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous entendez et ce que vous voyez. En fait, il va le réancrer dans le réel. Il va dire, Jean-Baptiste, regarde, regarde ce qui se passe. Les boîtes marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Je suis bien le Messie. Il ne va pas lui faire un long discours. Il va lui dire, regarde. Il va dire la même chose aux foules qui sont devant lui. Il va dire, et vous, qu'êtes-vous allé voir ? Dans le désert. Qu'êtes-vous allé voir ? Et s'il était là aujourd'hui, peut-être qu'il vous dirait, et vous, paroissiens de Saint-Nizier, ou gens de passage, famille, qu'êtes-vous venu voir ce matin ? Qu'avez-vous vu et entendu cette semaine ? Jésus ne vous fait pas un discours pour dire chassez les doutes de votre vie. Jésus vous dit, regardez, les amis. Et voyez, la clé de la joie que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est de, comme Jean le Baptiste, accueillir ce que Dieu nous donne de voir et d'entendre, d'accueillir le réel, le Messie qui se donne pour vivre de sa joie. Je vous donne simplement deux pistes pour vivre ce mystère-là, pour accueillir la joie de Dieu. Ça va jusque-là ? La première, c'est d'accepter le Messie tel qu'il est. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, Jean-Baptiste annonçait un Messie qui allait venir baptiser dans le feu et l'esprit. On se dit, ça va être un gars qui va débarquer, il y aura plein de secousses autour de lui. Et là, Jésus, qui se révèle être le Messie, on a l'impression qu'il y a un décalage total entre ce qui était annoncé et la façon dont Jésus vient montrer qu'il est le Messie. Et ça, c'est pas facile pour nous aussi. Parce que peut-être qu'on attend ou pas le Messie, j'en sais rien. Peut-être qu'on attend ou pas Dieu, j'en sais rien. Mais parfois, on attend Dieu tel qu'on aimerait qu'il vienne à nous. Et du coup, peut-être que cette question de « Es-tu vraiment celui qui doit venir ?» est une question qu'on se repose sans cesse. Mais que, comme on n'est pas prêt à accueillir un Messie un peu différent, un Dieu un peu différent dans notre vie, alors on a un peu du mal à se réjouir de Dieu qui vient. Parce que du coup, on est toujours insatisfait. Vous savez, ce temps dans la prison de Jean-Baptiste, c'est sûrement pour lui un vrai temps de purification, un temps de conversion. Et ce temps de l'Avent, pour nous, c'est peut-être un peu ce temps que, comme Jean-Baptiste a vécu en prison, qu'on peut vivre dans ce moment de purification pour accueillir le Messie tel qu'il est. Vous savez, on a entendu dans cette première lecture, le pays aride, qu'il exulte et fleurisse, le désert et la terre de la soif, qu'il se réjouissent. Et en fait, c'est nous tout ça, les amis. Mais vous voyez, si vous attendez un Messie et que vous vous considérez comme un jardin à l'anglaise, un beau jardin, tout nickel, et du coup vous attendez un Messie qui sera un jardinier qui viendra simplement tailler deux, trois petites branches qui dépassent, alors quand vous aurez un Messie qui viendra avec une bouteille d'eau, parce que lui, il sait que vous êtes dans le désert de la soif, et que vous avez besoin de beaucoup plus que simplement couper trois petites branches, alors peut-être que vous ne serez pas prêt à l'accueillir. Les amis, le Messie vient peut-être différemment, peut-être pas sous la figure d'un jardinier dans un beau jardin, mais plutôt de quelqu'un qui vient nous apporter de l'eau dans un désert. Alors le premier pas pour accueillir sa joie, c'est vraiment de prendre conscience, vous voyez, qu'on est peut-être cette terre aride, ce désert, et qu'on a besoin d'un Messie qui vient non pas comme on voudrait qu'il vienne, mais qui vient pour ce qu'on a besoin réellement. Ça va, premier truc ? Deuxième, pour accueillir la joie de Dieu, après avoir accueilli le Messie tel qu'il est, pas tel qu'on aimerait qu'il soit, il faut l'accueillir en mettant le plus petit au centre. Je ne sais pas si vous passez un peu devant votre crèche chez vous et que vous regardez un petit peu votre crèche de temps en temps. Petite parenthèse d'ailleurs, aujourd'hui, n'hésitez pas à passer un peu de temps avec le ravi de la crèche. En ce jour du dimanche de la joie, de demander au ravi d'avoir cette même joie qui habite votre cœur, les amis. Mais vous voyez, c'est étonnant la crèche parce que bon, il y a plein de personnages, tout ça. Et en fait, au milieu, il y a un truc avec une petite place, généralement, c'est la place de Jésus. C'est tout petit. Pourtant, c'est le cœur de la crèche. Pourtant, tous les personnages sont tournés vers ce petit truc au centre. Ben, vous voyez, les amis, pour accueillir la joie de Dieu, c'est la même chose. Il faut que toute notre vie soit tournée vers ce qui est le plus petit, le centre. C'est tellement beau d'entendre dans l'Évangile Jésus qui dit « Tout ce que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». Les cheftaines, tout ce que vous avez fait à vos Jeannettes, à vos louveteaux. Les parents, tout ce que vous aurez fait à vos enfants. Les profs, ce que vous aurez fait à vos élèves. Tout ce que vous aurez fait aux plus petits dans la rue. À ce collègue triste, à ce voisin seul, à ses grands-parents qui avaient besoin de vos nouvelles. C'est à moi que vous l'avez fait. Et vous voyez, la joie de Dieu, ce n'est pas simplement accueillir le Messie tel qu'il est, mais c'est aussi accepter que ce Messie, il vient nous déplacer pour nous remettre au centre ce qu'il y a de plus petit. Et je vous assure, et je vais terminer par là, qu'il n'y a pas de plus grande joie que de mettre au centre ce qu'il y a de plus petit. Je termine simplement avec cet exemple de Bernard Perrin, qui est ce scout. Écoutez bien les scouts, hein, parce qu'il allait jusqu'au bout du scoutisme. Bernard Perrin, il a été canonisé, béatifié hier. Il était envoyé en Allemagne dans le cadre du service de travail obligatoire. Il était scout. Et vous savez ce qui s'est passé là-bas ? Eh bien, il a choisi la joie. C'est très beau, je disais hier quelques extraits de sa vie. Il a dit « Je choisis la joie. Pourquoi ? Parce que je choisis de m'occuper de ceux qui sont dans la détresse. » Et donc, il était au milieu d'un camp de concentration. Il a fini sa vie là-bas. Il a choisi là-bas de s'occuper des plus petits, de continuer à tourner son cœur vers les plus petits et d'accueillir le Messie tel qu'il se donnait dans ce camp de concentration. Et le dernier mot qu'il écrit à ses parents avant de mourir, c'est « Je suis heureux ». Alors les scouts et chacun de nous, les trois enfants qui vont recevoir le baptême, choisissez la joie parce que le Messie vient pas tel que vous l'attendez, mais il vient au milieu des pauvres. Il vient vous rejoindre dans nos déserts. Accueillons-le et vivons de sa joie. Amen.